Bonsoir. La Cour internationale de justice, CIJ en sigle, a fixé hier mercredi à 325 millions de dollars américains le montant des réparations que Kampala doit verser à Kinshasa pour l'invasion par l'Ouganda de l'est de la RDC lors de la guerre des 98-2003. Kinshasa a réclamé plus de 11 milliards de dollars, un montant qualifié d'exorbitant par Kampala. La CIJ, plus haute juridiction de l'ONU qui siège à La Haye aux Pays-Bas, a estimé que l'Ouganda devait verser à la RDC 225 millions de dollars pour les pertes en vies humaines, 40 millions de dollars pour les dommages aux biens et 60 millions de dollars pour les dommages aux ressources naturelles. Cependant, certaines ONG congolaises et défense des droits de l'homme se disent déçues par la somme des réparations prononcée par la Cour internationale de justice en faveur des victimes des crimes commis par l'armée ougandaise dans l'est du Congo. Quelle lecture faites-vous de la décision de la Cour internationale de justice? Nous en parlons ce soir avec Maître Sylvain Lumu, un des membres de l'équipe de défense de la RDC. Il fait partie du cabinet Erika Lo Firme. Maître Sylvain Lumu, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Il est vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Dismas Kitenge, bonsoir.
Bonsoir Kenny Kouté, bonsoir tous les auditeurs de la Radio Kapi et les co-débatteurs de cette émission.
Et le professeur Bob Kiabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur Bob Kiabamba, bonsoir.
Bonsoir à vous madame et bonsoir aux auditeurs de Radio KPI et ainsi qu'à mes co-débatteurs du jour.
Vous êtes très nombreux comme d'habitude à réagir au terme de ce soir sur le cas de Roméo Kituba. La décision de la Cour internationale de justice ne rencontre pas l'assentiment de beaucoup de Congolais, d'autant plus que la RDC qui est victime, le montant de l'indemnisation demandée par la RDC qui a subi d'énormes pertes n'a pas été respecté et c'est dommage. Gracia Bakajika depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo, je félicite la Cour internationale de justice pour sa décision qui fait preuve de la reconnaissance des crimes commis par l'armée ougandaise dans l'est du Congo. À Kisangani, dans la province de la Tchopo, vous nous suivez sous la 94.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Vous le savez déjà peut-être, Kampala doit verser 325 millions de dollars américains à Kinshasa pour des actes d'agression armée perpétrés par l'Ouganda dans la partie orientale de la RDC il y a un peu plus de 20 ans. Ce verdict est tombé hier dans l'après-midi à La Haye, siège de la Cour internationale de justice. La RDC a accusé l'Ouganda d'actes de barbarie lors des audiences devant la CIJ en avril 2021, évoquant une occupation de 5 ans marquée par des très graves attaques aux droits de l'homme. Kinshasa a réclamé plus de 11 milliards de dollars, un montant que Kampala avait qualifié d'exorbitant. Les détails avec vous, Babel Mpongo.
En rendant son jugement, la Cour internationale de justice, CIJ, a indiqué accorder à la RDC 225 millions de dollars pour les dommages causés aux personnes. Ceci comprend les pertes en vies humaines, les viols, le recrutement d'enfants soldats et les déplacements des civils. Elle accorde également 40 autres millions de dollars pour les dommages causés aux biens et 60 millions pour les dommages afférents aux ressources naturelles. Pour la juge Joanne Donog, présidente de la CIJ, la réparation accordée à la RDC pour les dommages aux personnes et aux biens reflète le préjudice subi par les individus et les communautés du fait de la violation par l'Ouganda de ses obligations internationales. L'Ouganda est condamné à payer 325 millions de dollars en 5 versements annuels de 65 millions de dollars à compter de septembre. Pour rappel, les jugements rendus dans les différents États sont contraignants. La Cour règle les différents juridiques qui lui sont soumis par les États conformément au droit international. Elle donne également des avis consultatifs sur des questions juridiques soumises par des organes et des institutions institutions spécialisées autorisées des Nations Unies.
Maître Sylvain Loumou, vous êtes parmi les membres de l'équipe de défense de la RDC. Vous faites partie du cabinet Erika Lofirme. Alors dites-nous, Maître Sylvain Loumou, la Cour a décidé que Kampala verse à la RDC 325 millions de dollars américains pour l'invasion de ce pays dans l'est de la RDC lors de la guerre entre 98 et 2003. Maître Sylvain Loumou, comment est-on passé des 11 milliards de dollars demandés par la RDC à 325 millions de dollars, décision de la Cour?
Merci beaucoup, madame. Je dis également merci à la Radio Okapi de l'invitation à participer à cette émission. Je salue les co-débatteurs d'ISMAS et Prof Bob à Bruxelles. Je voudrais de prime abord saluer, donc prendre acte de l'arrêt de la Cour en tant que membre de l'équipe de défense sous la coordination du professeur Yvon Mingachang et aussi de la détermination des autorités congolaises à aller jusqu'au bout de cette procédure. Et cela en mémoire des victimes qui ont subi les affres des activités armée sur les territoires de la République démocratique du Congo. Je comprends également l'insatisfaction qui est exprimée dans l'opinion, en l'occurrence l'opinion des organisations de défense des droits de l'homme, notamment par la voix de Dismas qui est un des co-débatteurs à cette émission. Maintenant, la question que vous posez, comment on est parti de 11 milliards réclamés à 325? Écoutez, je voudrais d'entrée de jeu vous dire que cela m'amène à vous dire dans quelle mesure je reçois et je lis cet arrêt de la Cour. Il y a nombreuses questions qui y ont été posées dans la procédure depuis le début de celle-ci jusqu'à présent. Mais l'une des plus grandes questions en perspective, c'est notre capacité à documenter les crimes de masse, parce que notre pays, depuis 98, fait l'objet, n'est-ce pas, des activités armées, de l'activisme des groupes à l'Est, et que cet activisme n'est pas encore fini. Nous nous remettons en question en ce qui concerne la documentation de tout ce qui se déroule des victimes. On est parti de 11 milliards à 325, bien évidemment, parce qu'il s'est agi d'un débat judiciaire. L'objet du différend entre les deux parties, c'était d'abord de reconnaître qu'il y avait activité armée avec des affres ayant causé nombreuses victimes. Cela l'a été dans la première phase avec l'arrêt de 2005 et que la Cour se projetait à déterminer le taux de l'indemnisation, ce qui a fait l'objet de la présente procédure dont prononcée ayant intervenu hier. Je voudrais vous dire que les débats ont porté essentiellement sur la capacité pour notre pays à présenter des éléments, des preuves permettant à la Cour de calculer, parce que c'est cela qu'il s'agit d'évaluer.
Faut-il comprendre par là que la RDC n'avait pas suffisamment de preuves pour exiger ce montant à l'Ouganda?
La question ne peut pas être posée en termes de n'être pas en capacité de donner ou d'avoir suffisamment de preuves. Les preuves, elles ont existé, mais c'est la qualité de celles-ci. J'ai parlé de la capacité de documentation. Vous voyez par exemple que la Cour est allée plus loin en recherchant jusqu'au rapport des organisations et c'est davantage référé au rapport mapping qui a été plus ou moins fiable, alors que certains éléments qui ont été produits ont été objet de caution parce que ne reflétant pas les exigences rigoureuses des juridictions internationales. Et c'est là aussi un pan de travail qui devrait être le nôtre, à sensibiliser les populations, les organisations de défense des droits de l'homme, à être à mesure justement de fournir des éléments, des documentations qui répondent aux standards internationaux acceptables devant les juridictions internationales. Au moment où nous prenons en charge l'affaire en fin 2020, en succession d'une équipe précédente, il n'y avait plus lieu de faire autrement qu'avec des éléments à notre disposition, parce qu'il n'y avait plus lieu de faire quoi que ce soit. Et donc, nous venons de loin. Ce qui a été obtenu, c'est déjà la reconnaissance des crimes et du droit à la réparation, l'effectivité des mécanismes de justice et réparation, mais surtout un point de départ pour poursuivre les combats en faveur des victimes. Et là,
La RDC accepte donc ce montant.
Je n'engage pas les autorités officielles. Il s'agit d'une décision judiciaire internationale qui n'a pas lieu de faire l'objet d'un appel. C'est une décision judiciaire pour des États de droit démocratique qui s'impose à toutes les parties et c'est la RDC qui était demandeuse devant la Cour internationale de justice. Il faudrait plutôt envisager comment l'autre partie reçoit cet arrêt.
Parlons de la RDC, Maître Loumou, qui recevra cette somme et par quel mécanisme?
En fait, effectivement, c'est l'une des premières actions positives que doivent poser les autorités congolaises, c'est de procéder sans attendre à la création d'un fonds d'indemnisation des victimes qui devrait recevoir le fonds qui ont été alloués en termes de réparation pour pouvoir, évidemment, l'allouer directement aux victimes dans les conditions qui pourraient être objectivement définies dans une approche consultative, communautaire et qui permettra aux victimes également de s'approprier le mécanisme. Ce que je voulais dire, dans le cadre de la suite de la procédure.
Il n'y a pas à craindre que certaines victimes ne puissent pas bénéficier de cet argent.
Bon, en fait, la même difficulté éprouvée par la Cour, elle va demeurer la même, parce qu'effectivement, il risque que naissent des incompréhensions sur terrain, notamment en ce qui concerne la détermination des victimes, mais ça, croyez-moi, ça sera le travail de ce fonds d'indemnisation, qui à coup sûr sera constitué des personnalités qui ont les compétences nécessaires et l'expérience suffisante dans ce domaine des réparations. Et donc, je voudrais que l'on ait un minimum de confiance que dans ce pays, il y a ce genre de perles rares, des personnages qui disposent des compétences nécessaires pour être suffisamment indépendants et assurer ce travail.
Les juges ont imposé un calendrier à l'Ouganda. Ils ont estimé que le pays devrait payer par tranche de 65 millions de dollars au 1er septembre de chaque année, et ce jusqu'au en 2026, et si l'Ouganda devait refuser de s'acquitter de cette dette, des intérêts de 6% annuels s'imposeraient au pays. Au cas où ce pays refuse toujours de payer, qu'est-ce qui va arriver?
Ça fait partie de nos craintes que la Cour elle-même a anticipé. Quand vous lisez par exemple au paragraphe 402 de l'arrêt, la Cour s'attend à ce que le paiement prescrit soit effectué en temps voulu et n'a aucune raison présumée que l'Ouganda n'agira pas ainsi. Et donc l'arrêt devrait être exécuté de bonne foi, ce qui nous fait craindre le risque de ne pas être exécuté par l'Ouganda. Mais à lire les communiqués officiels de l'Ouganda ce matin, c'est que l'Ouganda considère cet arrêt comme injuste et erroné. Mais est-ce qu'il s'agit pour l'Ouganda d'exprimer ses craintes à ne pas exécuter? Mais en fin de son communiqué, l'Ouganda dit pouvoir poursuivre avec le pays frère, la République démocratique du Congo, des négociations constructives, notamment sur cet arrêt et sur d'autres matières. Pour nous, cela nous fait craindre le fait que si on s'engage dans une telle démarche, on risque d'être le dindon de la farce. Et donc, on ne peut pas s'engager dans ce genre de négociations en ce moment, avant même le premier engagement de paiement des 65 millions au 1er septembre. Et je crois qu'il faudrait observer suffisamment de prudence. Et nous, en tant que Conseil de la République, nous veillerons à jouer notre rôle, mais il reviendra aux autorités congolaises de faire les bons choix dans le sens des intérêts des victimes auxquels nous pensons depuis le début de cette procédure jusqu'en ce moment.
Merci Maître Sylvain Lumu. On vous garde encore dans cette émission. Le temps pour nous de donner la parole à Dismas Kitenge, qui est président du groupe Lotus, une ONG de défense de droits de l'homme basée à Kisangani. Il est vice-président honoraire de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH en sigle. Dismas Kitenge, quelle lecture vous faites de la décision de la Cour internationale de justice?
Merci beaucoup. La lecture, le premier élément qui sort, en tant qu'organisation de défense des droits humains qui appuie, qui accompagne les victimes de ces graves atrocités commises par l'Ouganda en particulier, mais en général aussi par d'autres États, c'est les sentiments de déception. Les sentiments de déception, premièrement à l'égard de la République démocratique du Congo, qui montre à travers ces procès-là, et particulièrement cet arrêt sur les réparations, qui n'a pas pris l'affaire au sérieux. 20 ans de préparation, 20 ans de documentation, 20 ans de recherche des éléments de preuve pour aboutir aujourd'hui globalement à ce que la Cour internationale de justice a dit dans cet arrêt, qu'il y a eu insuffisance de preuves pour beaucoup de cas et même absence de preuves. Donc c'est une déception. Le Congo n'a pas pris l'affaire au sérieux, avec toute cette crème intellectuelle de juristes, des enquêteurs de haut niveau, pour arriver ne fût-ce que à dresser une liste
des personnes décédées et tuées dans le cadre de ce conflit armé, une liste crédible à présenter à la communauté internationale, ça c'est déjà un élément qui déçoit, qui constitue même un affront pour les victimes, puisque
la capacité de documentation a manqué à la RDC.
Ça, ce n'est pas seulement cette capacité, je dirais une négligence. À mon sens, c'est une négligence puisque 20 ans durant, la RDC pouvait être capable, si elle avait accordé tout le sérieux au dossier et n'est pas se fier plutôt au rapport de mapping. Puisque le mapping, par exemple, le mapping n'a pas pris 20 ans pour faire ce travail. Le mapping a pris au maximum deux ans pour ce travail ou une année et demie. Et le rapport mapping était exhaustif. Et la première version, par exemple, autour de 900 pages. Donc la RDC a manqué complètement. Il n'y a pas une référence de l'État sur un rapport crédible avec des listes, alors qu'on pouvait faire ce travail en peu de temps. Donc c'est la première déception. La deuxième déception également, c'est au niveau de l'appui accordé aux victimes. Au niveau, puisqu'il y a la documentation, il y a aussi la démonstration. Par exemple, concernant les ressources naturelles, concernant les biens, la RDC pouvait mieux faire de donner les éléments qui peuvent permettre à la Cour de dégager ça. Imaginez, je donne un exemple, nous qui vivons dans ces régions-là, qui ont connu ces affres de la guerre, on a vu comment l'Ouganda a exploité les minerais, par exemple les diamants de Kisangani, l'or de l'Ituri. On pouvait recourir à des experts dans les domaines pour montrer que pendant X temps, l'exportation de l'Ouganda, où le matière première qui était extraite par l'Ouganda et vendue sur le plan international, pouvait être estimé à autant. La Cour attribue 40 millions de dollars. C'est complètement insignifiant pour les matières premières qui sont précieuses. Donc ça, c'est la déception globale, c'est que le sérieux n'a pas été donné à ces dossiers-là. La Cour a désigné un expert pour l'aider à évaluer les préjudices, les dommages causés, mais même au niveau de cet expert, en reprenant les arguments, la démonstration de l'expert n'a pas été non plus suffisante. On voit que l'expert avait aussi des difficultés pour dégager le nombre des personnes tuées, ainsi de suite, pour évaluer. L'expert de la Cour qui a aidé la Cour à donner ses avis, à donner ses propositions sur les différents préjudices, n'a pas été non plus aussi convaincant. Il n'a pas fait un travail fouillé capable de dégager. Et troisième déception enfin, c'est au niveau de la Cour elle-même, puisqu'on sent que ces difficultés que la RDC a présentées, la Cour elle-même a eu aussi ces difficultés-là. Donc, mais malgré ces difficultés, donc le comportement de la Cour, l'argument donné de la Cour paraît moins convaincant et même contradictoire. D'un côté, la Cour reconnaît qu'il y a eu pillage des ressources naturelles, qu'il y a eu pillage des biens, qu'il y a eu de pertes en vies humaines, mais on ne sait pas sur quels paramètres. Et ça, le jugement de la Cour ne ressort pas ça clairement. Pour arriver, par exemple, à ne retenir que 10 000 à 15 000 personnes qui ont été tuées par l'Ouganda, l'armée ougandaise, durant cette période de 1998 à 2003, pendant 5 ans. Comment la Cour est arrivée à avancer ces chiffres-là?
On imagine que la Cour a mené aussi ses enquêtes sur terrain.
Mais la Cour devait démontrer dans son jugement pour motiver comment il est arrivé à présenter ou à estimer le nombre de 10 000 à 15 000 morts occasionnés, tués par l'armée ougandaise pendant 5 ans.
Maître Dismas, le groupe Lotus s'est dit déçu par la décision de la Cour. Vous estimez que les victimes devraient poursuivre la bataille au pénal sur la scène internationale en vue d'obtenir justice et réparation?
Oui, absolument, puisque la bataille ne va pas s'arrêter là. Là, ce sont des réparations civiles, mais il faudrait qu'il y ait des sanctions pénales. Il y a eu des sanctions civiles, mais il faut qu'on arrive à des sanctions pénales. Et les sanctions pénales, c'est d'abord les individus. Les individus qui ont été au Congo, qui doivent répondre de ça. On sait que l'Ouganda n'a pas la volonté de poursuivre les personnes qui ont commis, ces ressortissants qui ont commis à son nom et pour son compte les crimes au Congo. Mais il faut là trouver un mécanisme de juridiction internationale. Quelle que soit la forme qu'on peut avoir, ben, qu'il y ait un tribunal international international pénal qui va poursuivre les auteurs de tous ces crimes-là. Et ça, c'est aussi une possibilité. Une autre possibilité, maintenant, c'est d'activer nos victimes, de les renforcer pour mettre en mouvement les mécanismes de la compétence universelle dans les États qui l'ont reconnu, qui l'exercent, en faveur de tous ces auteurs présumés des crimes de masse, des crimes de guerre, crimes contre l'unité, l'humanité, des crimes de torture, des violences sexuelles, lorsqu'ils sont des passages dans ces États-là. Il y a moyen d'actionner ça sur le plan pénal.
Professeur Bob Kiabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, vous êtes coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Alors que la RDC exigeait 11 milliards de dollars américains pour des actes d'agression armée perpétrés par l'Ouganda dans la partie orientale de la RDC, il y a un peu plus de 20 ans, la Cour internationale de justice a décidé que ce soit 325 millions de dollars qui sera versé à la RDC pour réparation. Quelle lecture vous faites de ce verdict de la Cour internationale de justice?
Merci beaucoup, madame. Donc, dans un premier temps, il est fondamental de souligner et de penser à la population civile qui a été victime d'abus de ces exactions qui ont été commises par l'armée ougandaise sur le territoire congolais. Ces personnes, ces victimes ont attendu presque 25 ans pour certaines pour espérer avoir, entre guillemets, une réparation et une condamnation des personnes qui sont les auteurs de ces exactions. Et 25 ans, vous pouvez vous imaginer, c'est beaucoup pour les victimes. Et malheureusement, la justice internationale, elle est faite comme elle est, avec sa lenteur, ce qui fait qu'il y a même plusieurs victimes qui sont déjà décédées, ne sauront même pas ce qui est advenu du procès qui a commencé il y a véritablement plusieurs années. Et donc, en essayant même de regarder toute la procédure, etc., imaginez-vous, madame, ça fait presque 25 ans que les victimes attendaient de pouvoir avoir réparation de ces victimes, de ces crimes. Et donc, ici, ça étant dit, malheureusement, il y a aussi une grande responsabilité, je pense, avant de penser à la justice internationale, une grande responsabilité de la justice congolaise elle-même, parce que la justice congolaise elle-même pouvait déjà aussi, elle parle des mécanismes qui existent au niveau du droit congolais, essayer déjà d'obtenir réparation directement par rapport à toutes ces victimes qui ont été dénombrées lors de l'intervention de l'armée ougandaise. Et alors, lorsque l'on regarde maintenant le dossier sur le fond, on ne peut que regretter que le dossier a été traité d'une manière assez incroyable, parce qu'en regardant même le dossier qui a été déposé par la RDC, donc pour pouvoir obtenir ses réparations et arriver à son chiffre de 11 milliards, on remarque par exemple, lorsque la RDC demande par rapport aux personnes la perte en vie humaine, atteinte aux personnes, viol et violences sexuelles, recrutement et déploiement d'enfants, déplacement des populations, abus aux biens, Société nationale d'électricité, biens des forces armées, on a aussi des dommages liés à ce qu'on appelle les pillages, minerais, or, diamants, coltan, étain. On a aussi la flore, café, bois, dommages environnementaux. Alors, lorsqu'on regarde effectivement cette liste qui a été déposée par la RDC, et on regarde dans le fond ce qui y est demandé, on se rend bien compte de la légèreté avec laquelle le dossier a été présenté. Et alors, cette légèreté n'incombe pas à la Cour, enfin, incombe à la RDC, qui doit prouver, parce que lorsqu'on accuse quelqu'un, on doit prouver de ce dont on accuse. On ne peut pas accuser en l'air en disant « oui, vous avez volé notre café, oui, vous avez volé notre or, et puis votre or, mais vous n'arrivez pas à prouver les quantités, quand, comment, par qui et par quel mécanisme ». Donc on a que cette liste-là qui est une liste en plus non exhaustive, qui n'est pas précise, et alors c'est comme si la RDC s'était déchargée sur la cour internationale pour que la Cour internationale fasse le travail à la place de la RDC.
Est-ce qu'on peut parler des manque de sérieux de la part de la RDC ou des négligences?
C'est beaucoup de négligence, je dirais beaucoup plus de négligence, qui est vraiment dommageable pour les victimes qui ont confiance en l'État, qui est l'État qui doit les protéger. Et dans le cas ici, la façon dont ça a été traité, on se rend bien compte que ça a été traité d'une très très grande légèreté et d'une négligence assez coupable. Et d'ailleurs même sur base de cet arrêt, je pense même que certaines victimes pourraient saisir la justice congolaise contre l'État congolais pour dire par rapport à des manquements qui peuvent constater dans le cadre donc de cet arrêt, pour que peut-être aussi la RDC puisse compenser, puisque la RDC n'a pas été en mesure de pouvoir arriver véritablement à un montant correct de l'indemnisation. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose fondamentale, madame, c'est que ces 325 millions, de 325 millions, nous savons tous comment on fonctionne au niveau de la gouvernance en RDC. Je parie déjà bien avant que ce montant risquerait certainement de ne pas arriver, même si l'Ouganda payait, ces montants n'arriveront jamais, ou presque jamais, ou infiniment, aux victimes de cette région. Et même sur cette question de versement, en lisant le communiqué, comme l'a dit le même maître Lumo tout à l'heure, en lisant les communiqués de l'Ouganda, on se rend bien compte que, de vous à moi, l'Ouganda ne payera pas ces 325 millions. Pourquoi l'Ouganda
Pourquoi vous dites ça, professeur?
Oui, justement, parce qu'il suffit simplement de lire les conclusions du communiqué. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent les conditions qui avaient amené l'Ouganda à pouvoir intervenir en RDC en 1990 jusqu'en 2003 n'ont pas changé depuis cette époque-là, et ça continue jusqu'aujourd'hui, et c'est ce qui justifie notre présence sur le territoire congolais. Ce qui veut dire que je ne serais pas étonné que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ou dans les prochains mois, que l'Ouganda aussi va présenter une facture à la RDC en disant « Oui, vous nous avez permis, vous nous avez invité à vous accompagner dans la lutte contre les ADF pour sécuriser la population. Le Parlement ougandais a déjà commencé à faire les calculs du coût de l'intervention de l'armée ougandaise sur le territoire congolais. Et ce coût, il est connu, il est de 2 millions de dollars par jour. On va multiplier par X jours, X semaines, X mois de présence de l'armée ougandaise. Et l'armée ougandaise fiscale de l'Ouganda présentera aussi la facture en disant oui, nous sommes intervenus pour venir justement par rapport à ce qui a été fait et on va aller dans les négociations ou en compensation, et on risquerait de se retrouver...
La RDC risque de ne même pas bénéficier de cet argent.
Voilà, exactement. Et que on risquerait que ce soit nous, ce soit la RDC, malheureusement, qui va se retrouver être débiteur de l'Ouganda en termes de compensation. Et malheureusement, c'est ça qui est plaintif. Et puis pour les victimes, ça serait vraiment très, très, très... Pour les victimes, ça serait vraiment presque double assassinat ou bien double exaction espérer obtenir quelque chose et en bout de course ne pas l'obtenir et en bout de course encore être redevable par rapport à ce qui est en train de se passer. J'ai suivi les débats qui a eu lieu au Parlement ougandais et j'ai suivi les parlementaires du parti politique du président ougandais et leurs conclusions sont très claires. Oui, l'intervention coûte très cher. Oui, c'est indispensable. Oui, nous aidons la RDC, mais nous devons présenter une facture à la RDC puisque l'Ouganda n'est pas en mesure de pouvoir continuer à assumer seul la responsabilité et les coûts de la lutte contre les ADF. D'autant plus que l'armée ougandaise, elle dit aussi dans plusieurs communiqués qu'elle obtient des résultats sur le terrain. C'est ce qu'elle, elle dit, même si nous savons que les organisations de droits de l'homme qui sont sur le terrain disent le contraire, mais les communiqués de l'armée ougandaise, quand on les lit, ils disent qu'ils sont en train de progresser, ils disent qu'ils ont atteint, par exemple, le quartier général des ADF, ils disent qu'ils ont liquidé toute une série de chefs militaires, etc., etc. Et alors tout ça aura un coût. Souvenez-vous, lorsque l'on a parlé de l'AFDL et du RCD, puisque au moment où Kabila Père demande justement aux troupes rwandaises, ougandaises, burundaises de se retirer du pays, la réponse a été nous ne pouvons pas nous retirer puisque nous n'avons pas encore été payés par rapport à ce que nous avons fait pour aider le Congo à se débarrasser du régime dictatorial de Mobutu. Et cela a abouti à la guerre du RCD qui avait commencé donc le 2 août 1998. C'est ça ma grande crainte.
Maître Sylvain Loumon, que pensez-vous de l'analyse du professeur Bob Kabamba qui pense que la RDC risque de se retrouver débiteur de l'Ouganda en termes de compensation à cause des opérations conjointes pour la traque des ADF dans la partie est du pays?
Merci beaucoup, madame. Je ne voudrais pas que cette question soit, n'est-ce pas, abordée de manière isolée. L'équipe de la défense a eu effectivement à éprouver cette difficulté qui relevait de la stratégie globale de gestion de ce dossier par l'Ouganda, parce que vous constaterez dans la procédure que l'Ouganda a plusieurs fois demandé des reports des procédures pour donner la chance aux négociations entre parties. Et lorsque les autorités congolaises s'engagent dans les négociations, il n'y a pas une suite favorable à un résultat palpable pour l'indemnisation des victimes. Ce qui a fait effectivement que le dossier connaisse une lenteur incroyable et endommageante vis-à-vis des victimes. Effectivement, cela a également eu, d'une certaine manière, il faut l'avouer, étant donné que la présence de troupes ougandaises en cette période précise où l'affaire était prise en délibéré et que l'Ouganda en a assuré une manipulation de l'opinion par un matraquage médiatique incroyable, ça effectivement aussi d'une certaine manière a mené quelques influences dans l'opinion. On ne dit pas que les juges ont été influencés. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il faudrait effectivement que nous, la partie congolaise, nous soyons en mesure de nous entourer de suffisamment de prudence pour éviter que demain l'Ouganda pose un problème de compensation possible entre les taux d'indemnisation prononcés par la Cour internationale de justice et ce qui se fait sur terrain, sur les plans politiques et donc sur les plans extrajudiciaires. C'est pour cette raison justement que nous pensons qu'il est d'un intérêt notable que les autorités congolaises soient regardantes suffisamment en ce qui concerne le coût de ce qui se fait sur terrain. Et il faudrait bien avouer que les ADF n'ont pas été invités par le Congo sur son territoire. Il relève également de la responsabilité de la communauté internationale à combattre le terrorisme dans cette partie du territoire, ce qui fait que le Congo ne peut pas payer doublement à la fois le fait d'être victime de l'invasion de son territoire par des troupes, des groupes armés étrangers, mais aussi et surtout par le fait que les pays responsables de ce que ces ressortissants rebelles ou terroristes viennent envahir un territoire étranger et que celui-ci en paye le prix.
Alors, on va prendre ces nombreux auditeurs qui nous appellent sur notre standard. Dismas Kitenge, on va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle de Bounia, dans la province de l'Ituri.
C'est David Soumaïl Moussafiri, depuis Bounia, dans la province de l'Ituri. Je tiens à féliciter la Commission internationale de justice pour son travail abattu et la République de l'Ouganda de pouvoir reconnaître sa responsabilité civile. C'est une avancée salutaire qui donne en plus une bonne image du continent africain et une victoire pour la RDC. Cependant, quand au montant fixé par la Commission internationale de justice que Kampala doit dédommager la RDC, je trouve à mon humble avis que c'est un montant équilibré. Demander 11 milliards de dollars, c'est comme si on prenait Ouganda comme un grand ennemi éternel et cela pourra même être nocif sur le plan diplomatique. Malgré la gravité de ce que Ouganda aurait fait pour nous, on ne doit pas briser nos relations diplomatiques. Cela appartient déjà à l'histoire et nous sommes appelés à avancer et repartir sur de nouvelles et bonnes bases pour reconstruire nos relations. L'essentiel est que Kampala reconnaît sa responsabilité, ce qui est déjà pour moi une grande victoire pour la RDC. Merci.
Cet auditeur n'a peut-être pas lu le communiqué de Kampala qui juge la décision de la Cour injuste et erronée. Maître Dismas, comment vous réagissez au propos de David qui nous a appelé depuis Bounia?
Oui, il y a des éléments positifs quand même, malgré que globalement c'est négatif. Il y a eu quand même des éléments positifs. Donc je disais que voilà, la reconnaissance de l'Ouganda de ses crimes, de pillages et de la reconnaissance et la compétence de la Cour internationale de justice par l'Ouganda est aussi un élément important que l'Ouganda respecte le droit international, le reconnaît, puisque le Rwanda ne l'a pas reconnu. Ça, c'est un élément quand même positif qu'on doit reconnaître. Maintenant, c'est tout, c'est la volonté de pouvoir mettre en exécution cet arrêt, mais aussi la gravité des crimes qui ont été commis par l'Ouganda, qui n'a pas été suffisamment reconnu par la Cour. Comme je disais tout à l'heure, il y a des éléments qui sont décevants, même dans les jugements, dans l'arrêt qui a été rendu. On voit aussi que la Cour elle-même avait des difficultés, puisque même la Cour ne nous a pas donné les paramètres sur lesquels elle s'est basée pour déterminer les montants, pour évaluer. On a vu les mêmes difficultés. Il y a certes la RDC qui avait des difficultés, mais la Cour elle-même aussi avait des difficultés, l'expert aussi avait des difficultés. Donc ça ne représente pas les 5 ans des crimes commis en RDC, les 5 ans des pillages des ressources, les 5 ans aussi des biens qui ont été emportés. Donc voilà, c'est un pas, mais ce n'est pas un pas suffisant. Puisqu'au-delà de ça, on aurait souhaité que la Cour, par exemple, l'Ouganda plutôt, présente des excuses publiques. à la RDC reconnaissent d'une manière claire et nette les crimes qui ont été commis, mais on voit les réactions de l'Ouganda après l'arrêt est une réaction ambiguë. C'est une réaction de justification, des excuses et même de vouloir trouver des circonstances atténuantes de sa responsabilité. L'Ouganda n'assume pas la responsabilité historique des crimes qu'il a commis et présente et devait présenter, ne fût-ce qu'à ce stade déjà, des excuses publiques à la RDC, des excuses pour les victimes.
Professeur Bob Kabamba, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Je suis Domez Meshak Mouchagaloussa depuis Goma. Un sage disait, il faut battre le fer quand il est encore chaud. Il me dit que la RDC avait perdu le bon moment où il fallait user de la diplomatie afin d'introduire l'action en réparation des dommages causés par l'Ouganda pendant la guerre des 6 jours à Kisangani, juste à la veille de prononcer de l'arrêt qui avait condamné l'Ouganda. Obtenir la condamnation était une chose, mais lorsque nous comparons les dégâts causés par l'Ouganda selon plusieurs rapports sur le sol congolais, nous nous disons qu'il n'y a pas équilibre. La décision de la CIJ nous paraît inique. Elle nous pousse à nous demander par quel procédé la CIJ avait usé pour obtenir les 325 millions de dollars alors que la RDC réclamait 11 milliards. En outre, nous ne pouvons pas nous priver du droit de nous demander pourquoi cette décision tombe maintenant alors que les armées des deux pays sont dans des opérations conjointes à l'est de la RDC dans les traces des ADF. Est-ce que cette dernière ne contient pas une dose de contamination entre les afin de nuire aux deux relations? Merci beaucoup.
Professeur, comment vous répondez à cet auditeur?
L'auditeur, je pense, reprend une bonne partie de ce que j'ai dit déjà tout à l'heure. Et donc, sur la question justement de 11 milliards à 325, pour ma part, je reste sur ma position, c'est que c'est de la responsabilité de la RDC de pouvoir argumenter, présenter des preuves. Madame, lorsque vous allez à la police qu'on vous a volé, est-ce que vous allez dire, voilà, j'ai été, on m'a volé mon portefeuille, et dans mon portefeuille, il y a avec quoi? Il y avait une pièce d'identité, un numéro tel, etc. Il y avait 120 dollars ou 60 dollars ou 60 000 francs. On écrit 60 000 francs qu'il y avait dans la plainte que vous allez déposer. Vous n'allez pas dire, on m'a volé l'argent, un peu comme ça, et vous laissez à la cour de pouvoir décider, entre guillemets, de combien on vous a volé dans votre portefeuille. Et c'est cette responsabilité de la RDC, pour ma part, quand je lis l'arrêt, quand je lis effectivement les conclusions qui ont pas toute la procédure, ça, de 11 milliards à 325, c'est la RDC qui, pour ma part, est la première responsable de la question.
Pourquoi en ce moment? Oui. Pourquoi cette décision, ce verdict tombe en ce moment?
C'est ça que j'ai, oui, parce que tout simplement, la procédure, comme je l'ai expliqué, la procédure de la justice internationale, malheureusement, elle est lente d'une façon, on va dire, grosso modo, c'est celle-là qui est, c'est cette lenteur, c'est 25 ans que les crimes ont été commis, et on a la décision 25 ans plus tard, mais aussi, c'est que, du part en lisant aussi, c'est qu'on remarque, comme dit Maître Lomou, il n'y a pas longtemps qu'ils auraient pris le dossier. Et donc le dossier était, entre guillemets, oublié, négligé. Il a fallu que le cabinet de Maître Lomou s'en occupe pour qu'on arrive à avoir ces résultats. Et là aussi, c'est aussi, de mon point de vue, à nouveau de la responsabilité de la RDC.
Maître Sylvain Lomou, on va prendre aussi pour vous très rapidement cette réaction qui nous vient de Kisangani.
C'est Ougen Mungwaju et Gabriel depuis Kisangani, province de la Tchopo. Cet arrêt de la Cour internationale de justice est honteux, jette un discrédit pour ceux qui sont allés nous représenter à ces procès. Un conflit de 1898 à 2003, avec des pertes en vies humaines, des dommages économiques, et un impact certain sur les ressources minières du pays, on les fixe à 325 millions de dollars, moins de 11 milliards de dollars. C'est une véritable moquerie et l'échec de la diplomatie de l'actuel régime. Moi, je pense que les avocats de la RDC peuvent interjeter l'appel pour protester contre cet arrêt qui humilie la République.
Maître Lomou, brève réaction.
Merci beaucoup, madame. Je voudrais rapidement dire à notre auditeur de Kisangani, monsieur Gabriel, que nous nous attendions effectivement à des incompréhensions quant à la lecture de cet arrêt, mais les difficultés sont bien réelles. Lorsqu'il faudrait, par exemple, pour un cas concret, pendant que le conflit est en cours sous les théâtres de combat. Généralement, il y a des organisations qui développent des mécanismes de documentation des crimes qui se commettent. Dans notre pays, ça n'a pas été le cas et c'est même l'occasion justement d'inciter ou de motiver les autorités congolaises à assurer la collaboration avec les organisations non gouvernementales, à les accompagner. Quand vous prenez le cas de la vie, dans le droit congolais, le décès est établi par le certificat de décès. Et la Cour est au courant de cet état des lieux du droit congolais. Et lorsque vous clamez devant la Cour que vous avez eu 1, 2, 3 ou 4 décès, vous devez produire autant de certificats de décès dans ces conditions-là. Mais il ne s'agit pas, comme j'ai entendu dire mon aîné Dismas, qu'il fallait établir une liste des victimes. Ce n'était pas suffisant. Et la question d'administration de la preuve demeure l'une des questions fondamentales du droit international, même dans les mécanismes de détermination des victimes devant la Cour pénale internationale. Je crois que nous devrions y pencher beaucoup d'études, beaucoup de mobilisations citoyennes pour que les Congolais soient en mesure de documenter ces genres de choses.
Alors, pour conclure, Maître Sylvain Lumoun, qu'est-ce qu'il faut retenir après cette décision? Ça veut dire que le dossier est clos?
Au fait, comme l'a souhaité l'auditeur, malheureusement, on ne peut pas interjeter appel. La Cour internationale de justice se prononce en premier et dernier ressort sur une question. Ici, il s'agit pour nous de prendre les taureaux par les cornes pour envisager les perspectives immédiates. C'est d'abord donc pour crédibiliser notre position, mettre en place le fonds d'indemnisation des victimes pour donner le sérieux et assurer toutes les parties et les victimes qui ont attendu longtemps que les montants qui seront ainsi alloués leur parviendront sur terrain et d'inviter toutes les parties impliquées, y compris les organisations de défense des droits de l'homme, de s'approprier la décision, quoique décevante de ce qui se passe dans l'opinion, pour en assurer pleine application sur terrain. C'est ça justement notre souhait en tant que conseil dans cette affaire.
Merci Maître Sylvain Lumo, Dismas Kitenge. Le groupe Lotus a pris la décision d'accompagner les victimes à poursuivre la bataille pénale sur la scène internationale pour que les auteurs de ces crimes soient jugés.
Il faut qu'il y ait des poursuites pénales, donc au niveau national, il faut encourager les victimes à déposer des plaintes contre les auteurs congolais qui ont coopéré avec l'Ouganda, le Rwanda, pour que ces gens-là soient aussi déjà poursuivis en justice. Mais il n'y a pas que ça, pour des réformes aussi sérieuses en termes de vetting, que toutes ces personnes qui sont citées dans les rapports Mapping, qui sont citées dans d'autres rapports, ne puissent plus exercer les fonctions politiques jusqu'à ce qu'elles répondent de leurs actes, et aussi faire le plaidoyer au niveau international pour que nous ayons des juridictions ou une juridiction internationale qui va poursuivre ces personnes, les juger et les condamner, tous ceux qui ont commis des crimes grave, puisque nous estimons qu'il ne peut pas avoir deux poids, deux mesures au niveau de la communauté internationale. Donc ça, c'est une affaire au niveau civil, mais il y a aussi une affaire au niveau pénal que la communauté internationale, qui d'une manière ou d'une autre, porte aussi la responsabilité morale et politique de ce qui s'est passé au Congo, qui a permis que les armées étrangères viennent nous envahir, mais il faut qu'il y ait aussi une juridiction internationale, puisqu'il s'agit des crimes internationaux qui ont été commis.
Merci.
Mais il y a aussi les problèmes de réparation, il faut que la RDC, qui a commencé avec l'exemple de ces fonds de réhabilitation provisoire des victimes de Kisangani, qu'on arrive non pas à créer seulement un petit fonds, mais un fonds national de réparation qui doit prendre en charge tous les préjudices et les dommages que les victimes ont connus en République démocratique du
Merci
Congo.
Dismas Kitenge, on vous a
par
compris.
Des organisations internationales.
Merci Dismas, professeur Bob Kabamba, votre conclusion.
Oui, je pense qu'il faudra vraiment attirer l'attention et puis par rapport aux victimes, je pense que les victimes ont tout intérêt à s'approprier d'abord ce jugement et à se constituer, à s'organiser et à pouvoir continuer le combat, puisque ce n'est pas l'arrêt qui va arriver à résoudre tous les problèmes et tous les mal qui ont été commis à leur encontre. Je pense qu'ils doivent s'organiser et continuer à être soutenus aussi bien au niveau local, provincial, national qu'international dans ce combat, et qui, de mon point de vue, n'est pas encore terminé. Et ceci n'est qu'une espèce d'étape dans la poursuite des criminels qui en sont les auteurs, donc des exactions commises contre cette population du l'est du Congo.
Merci, professeur Bob Kiabamba. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Guy Maté, sous la supervision de Martin Sebujangwe. La mise en onde était assurée par Jean-Noël Mokondo. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.